Et donc, je vous invite à entendre un deuxième passage de la Genèse au chapitre 9, les versets 9 et suivants. C'est la fin de l'histoire du déluge. Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance, avec vous et après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous. Bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tout être vivant avec vous pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et puis, à l'autre bout de la Bible, si je puis dire, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, ce passage extrêmement célèbre aussi, qui est l'apparition au bord du lac. Donc, le chapitre 21, les versets 1 à 14. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment il se manifesta. Simon Pierre, Thomas, qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin, et Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et il leur dit, « Et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?»« Non, lui répondirent-ils. » Et il leur dit, « Jetez le filet de côté droit de la barque, vous trouverez. » Ils le jetèrent, et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question, « Qui es-tu ?» Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne, il fit de même avec le poisson. Et ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Oui, Père, il y a des témoignages qui nous semblent parfois bien mystérieux. Nous avons bien besoin de ton esprit pour y voir un peu plus clair dans tout cela. Puissions-nous les uns et les autres être au bout d'une nuit avec un feu qui puisse nous guider dans la vie et dans l'éternité. Amen. Voilà, je vous invite à prendre le cantique 203. Puissions-nous, Père, chanter l'espérance comme nous venons de le faire le plus souvent possible pour signifier la joie que nous avons d'être en ta présence. Amen. On a souvent l'impression d'être embarqué sur un bateau comme ce malheureux Noé, une sorte de bateau ivre qui part à la dérive comme cela. Et il est vrai que l'actualité semble nous conforter dans cette idée avec la mondialisation qui est là, qui nous dépasse, la montée des intégrismes, la révolution scientifique à laquelle nous assistons et qui va à une vitesse vertigineuse évidemment. Le chômage, les pays émergents, la surpopulation, l'écologie, il y a tant et tant de problèmes qui se posent à nous qu'on ne sait plus très bien dans quelle direction aller et aussi comment échapper à tout cela. Le monde est complexe, très complexe aujourd'hui, et il est opaque aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien de quoi sera fait l'avenir, on n'a pas trop d'idées finalement. Alors c'est vrai que dans nos vies personnelles aussi, il y a des sentiments d'inquiétude parfois. Des moments difficiles, évidemment, des sentiments d'insécurité, et puis il y a le chômage qui est là, qui frappe bien des familles et bien des personnes. Et on n'est pas étonné de voir que les cabinets de psychologues soient pleins aujourd'hui. Je veux dire, les gens ont souvent un mal-être qui est important. Alors même si ce dont je parle là a l'air un petit peu catastrophique, et même si ça ne correspond pas, en fait, à la réalité, il n'empêche que c'est comme cela que c'est vécu. Pour nous, il y a bien des questions qui se posent aussi. La culture générale que nous voudrions plus importante, évidemment, surtout avec les moyens de communication, de diffusion qui sont dans nos mains à l'heure actuelle. Peut-être un manque d'esprit critique aussi. Vous voyez que les protestants sont des gens qui ont l'habitude de protester, comme on dit, mais encore faut-il en avoir les moyens. Ça va de soi. Et puis l'espérance qui nous manque à tous, peut-être que les idéologies qui sont en sommeil expliquent peut-être cela. Et puis nos églises, elles semblent bien ballottées aussi au gré des événements. Prenez le mariage pour tous, par exemple, avec la bénédiction telle que les églises protestantes unies de France l'ont votée. Eh bien, on peut se dire qu'après les remous que cela a créé, que tout cela est quand même dommage finalement qu'on n'arrive pas à un consensus à s'accepter les uns les autres. Le paysage plus plurireligieux. Hier, moi, quand j'étais enfant, il y avait en face de nous des catholiques, en gros, quelques juifs, on en voyait un de temps en temps. Je veux dire, quand j'étais au lycée, il y avait toujours un protestant et un juif dans une classe, quoi, en gros. Peu de choses près. Donc on se retrouvait, évidemment, face à tous ceux qui, en quatrième ou en troisième, disparaissaient brusquement aux alentours de Pâques ou de Pentecôte pour faire une retraite catholique. Donc on se retrouvait, mais il n'y avait que les catholiques, enfin c'était assez simple. Mais aujourd'hui, vous avez les gens qui se déclarent agnostiques, d'autres qui se disent athées, vous avez ceux qui se disent bouddhistes, il y a une revue bouddhiste, là j'ai appris, qui se diffuse à 20 000 exemplaires, ça fait déjà pas mal, quelque chose qui est nouveau dans le paysage, enfin nouveau, quelques décennies évidemment. Je veux dire, il y a la montée de l'islam aussi, et tant d'autres choses qui sont là, sans parler des syncrétismes religieux que le New Age a laissé sur le rivage en se retirant. Et donc on est là, on ne sait pas très bien comment se situer, voilà, d'autant plus que en face de nous, nous avons parfois des hostilités déclarées. Je vous ai déjà dit que je me suis fait injurier plusieurs fois parce que j'étais pasteur et chrétien. Je veux dire, mais que dire dans d'autres pays où il y a des persécutions, des vraies persécutions qui sont sévères avec des morts, des assassinats. Alors on peut se poser la question, mais que dit la Bible lorsque nous, étalons tout cela? Que dit la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament? Alors, la Bible pose le problème du mal, des difficultés que les hommes ont et des questions qui se posent à eux et auxquelles ils essayent de répondre comme ils peuvent. Et la Genèse, au travers de sa mythologie, raconte cette histoire de Noé. Alors, c'est bien de la mythologie dont il s'agit. Le récit de Noé, on le retrouve dans les mythologies de l'Indus, de la vallée de l'Indus. On le retrouve dans les mythologies nord-américaines aussi, d'Amérique centrale. Exactement la même histoire, avec quelqu'un qui est protégé des dieux parce qu'il est fidèle, qui se trouve sur un bateau en perdition avec des animaux, etc. Enfin bref, c'est assez intéressant de voir cela. On se demande si dans l'inconscient collectif des êtres humains d'aujourd'hui, il n'y a pas peut-être les effets dévastateurs qui sont restés dans la mémoire de la fonte des glaciers lors de la fin de la dernière glaciation, juste au moment du néolithique, si vous voulez. Et c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. On peut toujours la discuter. Mais dans tous les cas, il y a cela. Mais voyez, le sentiment d'être ballotté comme si on était dans un bateau au gré des événements peut aussi tout à fait expliquer cette mythologie qui est là dans la mémoire des hommes. Alors, il y a cette histoire de Noé qui est pourtant là. Noé qui est un homme de bien, comme je disais tout à l'heure aux enfants d'école biblique, et qui se trouve là un peu perdu, en perdition, au milieu d'une population humaine qui est pervertie, d'un monde qui est pollué par cette perversion humaine. Et c'est vrai que si on y regarde de plus près, on pourrait se dire, mais finalement, l'histoire de Noé, ça nous parle, hein, on peut se projeter facilement dans cette histoire, ou la récupérer pour nous y retrouver d'une certaine manière. Le déluge illustre cela, finalement. Noé est en perdition dans l'océan du mal, il sera en perdition sur cet océan à la suite de l'inondation du déluge. Il est toujours à la dérive. Et pourtant dans son bateau, dans son arche, il est un signe d'espérance. Vous voyez, dans le désert de l'eau, car les océans sont des déserts, il ne faut pas le perdre de vue, mais dans le désert de l'eau, eh bien, il est là comme un signe de vie, finalement, et un signe d'espérance. C'est ce qui fait peut-être la beauté de ce texte. Beauté de ce texte, c'est le fait que depuis qu'on est petit, on le retient. Il n'y a pas que les animaux qui sont là, qui accrochent, et les enfants, évidemment. Et peut-être qu'inconsciemment, ce message nous parle, trouve de l'écho chez nous. Oui, il est un signe d'espérance. Il est un signe d'espérance parce que l'arche, le bateau, c'est comme une sorte de boîte, une sorte de coffre qui va être protecteur, finalement, et qui va protéger dans sa coquille la vie. Mais l'arche, nous savons aussi que c'est ce coffre en bois aussi, en bois d'acacia, si je ne me trompe, je ne me souviens plus très bien, pardonnez-moi, dans lequel se trouve la parole de Dieu, la fameuse loi, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est signifié présent dans ce coffre, avec les chérubins qui sont dessus. Hein. Et on a ce coffre-là qui est le signe de l'espérance et de l'alliance pour Israël qui traverse le désert et qui se libère de l'esclavage. Vous voyez ? Là aussi, Israël ballotté dans le désert, avec la peur de l'Égypte derrière, l'inconnu devant, et ce désert tout autour se trouve réuni autour de ce coffre, de cette arche précisément, qui est l'arche de l'Alliance, évidemment. Et intéressant dans cette affaire, c'est qu'on va retrouver avec l'histoire de Noé une renaissance du monde, finalement. L'espèce humaine va repartir avec la création tout autour. Et avec l'arche de l'Exode, on va avoir un peu la même chose. Un peuple repart de ses cendres, de l'esclavage, de la négation de l'être humain précisément, parce que c'est un peu ça l'esclavage, et qui va affirmer son nom, sa présence dans l'histoire, son être même autour de cette alliance, le coffre, avec en plus cet arc-en-ciel chez Noé et ces deux chérubins qui forment eux aussi une sorte d'arc au-dessus de l'arche, l'arc-en-ciel. Ou ces chérubins qui signifient à la fois un côté et l'autre, qui signifient peut-être le côté de l'être humain et le côté du monde et le côté de Dieu finalement qui se retrouvent là, réunis dans une alliance. Une alliance universelle et cosmique, c'est l'ensemble de la Terre qui est concernée, c'est pas seulement que l'espèce humaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de communion entre Dieu, entre les êtres humains qui porte cette parole de Dieu dans le monde et le monde tout autour. L'histoire de la révélation est une histoire qui n'est pas seulement l'histoire des êtres humains, mais qui est une histoire cosmique. Oui, l'arche de Noé. Eh bien, cette arche de Noé, voyez-vous, avec son gigantisme, avec sa porte sur le côté et ses cases qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, dont j'ai parlé avec les enfants en disant dans chaque case il y a un animal différent, ce qui fait qu'on peut mettre le loup à côté d'un mouton, le lion à côté d'un mouton sans que ça pose trop de problèmes. Eh bien, c'est l'architecture d'un temple païen. Vous voyez, c'était quand même amusant, je veux dire, de le constater. Alors, il est assez païen parce qu'à l'époque, on ne pense pas à païen et monothéisme comme nous le pensons aujourd'hui, mais c'est l'architecture d'un temple. Voyez, l'arche, ça devient le temple de Dieu finalement. Et ce temple est vraiment le temple de Dieu parce que la vie s'y exprime là-dedans, alors que tout autour, il n'y a que de la mort. Voyez. Et c'est pour ça que l'arche est porteuse d'espérance. Et c'est pour ça que l'arche de l'Alliance reflète la même symbolique, avec les mêmes mots précisément. Parce qu'il y a Dieu qui est présent, là aussi à travers la parole, les 10 paroles, voyez, et que c'est porteur d'espérance, et que c'est porteur de vie. Nouvelle vie, nouvelle création sans cesse répétée à travers ces alliances. Mais vous me direz, il y a encore un coffre qui est important, c'est le tombeau. Le tombeau qui est vide avec les deux chérubins précisément, à nouveau, tiens, comme c'est curieux. Il y a précisément pour me dire, là, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'alliance. Mais d'une alliance qui est nouvelle, parce que alors là, l'arche est vide, le coffre est vide. Dire, il n'y a plus de Noé, il n'y a plus de disciples qui vont au tombeau. Terminé tout ça, ça va se passer ailleurs. Là, on passe de l'intérieur de l'arche et de l'environnement très proche à l'extérieur lointain. On va quitter le coffre lui-même, on va quitter l'arche, comme Noé va quitter l'arche avec ses enfants et les femmes de ses enfants et les animaux pour aller dans le monde à nouveau, pour porter une parole de vie, une sorte de renaissance. Il y a dans la Bible, à travers ces différents coffres, ces arches, un message de vie extrêmement fort qui passe, un message d'espérance assez extraordinaire qui est inscrit finalement et qui passe à travers de la mythologie, je veux dire, de la légende historique avec l'Exode et puis de l'expérience mystique avec cette expérience de résurrection que vont avoir les disciples. Parce que là, nous sommes encore dans la barque. Nous sommes encore sur un bateau avec l'histoire des disciples. Ils sont là sur leur bateau, en perdition sur le lac et avec les catéchumènes tout à l'heure, je leur disais, mais voyez, on est quand même la nuit sur le lac avec les monstres qui sont au fond de l'eau, tels qu'on le croyait autrefois, avec le Shéol qui est au fond de l'eau, qui est sous terre et au fond de l'eau, tel qu'on le pensait autrefois. Et donc, avec la nuit et cet échec des disciples qui ne prennent rien, on est dans une ambiance de mort là aussi. Et il y a cette barque dans laquelle seront pris quand même finalement au filet 153 gros poissons finalement, et cette barque qui va arriver là où il y a la lumière, c'est-à-dire là où il y a le feu qui va les guider, qui va les faire vivre comme la lumière de l'arc-en-ciel va donner de l'espérance et faire vivre les hommes après le désastre finalement. Et là, on trouve les mêmes symboliques là, comme c'est curieux, vous voyez, qui fonctionne tout à fait bien à travers cette image de l'arche et à travers ces difficultés que les hommes peuvent rencontrer, les échecs qu'ils peuvent subir, la peur de la mort qu'ils peuvent avoir, mais à chaque fois, une espérance nouvelle, renouvelée, qui conduit, qui appelle les hommes vers la vie pour une nouvelle création. Les disciples vont devenir apôtres. Là aussi. Et l'Église qui est confinée au départ dans la région de Jérusalem, pouf, elle va éclater et aller vers le monde entier. Et cette barque, on va la retrouver encore après. On va la retrouver parce que quand on regarde l'iconographie dans les catacombes à Rome ou ailleurs, on voit souvent le bateau qui est là avec le mât. Le bateau, il est très schématiquement présenté, la barque, et puis vous avez le mât, avec le mât transversal qui porte un nom que les marins connaissent, mais moi que j'ignore complètement, mais peu importe, je veux dire, mais ça forme une croix, ça forme la croix. Et c'est pour ça que vous avez ce dessin dans les catacombes qui signifie que l'Église est comme une barque qui est surplombée, dominée, protégée par la croix du Christ, qui va sauver cette Église qui est en perdition à travers les persécutions que les empereurs, certains empereurs romains, lui font subir. Et lorsque les chrétiens se réunissent en prière dans les catacombes, ils ont cette image de la barque avec le Christ présent dans la barque avec eux. Et on retrouve, du coup, l'histoire de l'apparition au bord du lac. On va retrouver Jésus qui est dans la barque, dans les évangiles synoptiques. On va retrouver l'arche de l'Alliance. On va retrouver la barque de Noé, et ainsi de suite. L'Église est vue comme une barque. Pour ça que, vous disiez tout à l'heure, en commençant cette réflexion, vous voyez, on a le sentiment qu'on est dans la difficulté, qu'on est à la dérive. Oui, nous sommes peut-être à la dérive. Je veux dire, et certainement, on se sent pas très fort. Moi, quand je suis venu la première fois au foyer de l'âme en 1965 ou 6, je sais pas très bien, ça commence à dater, et ben, c'était plein partout. Ça nous fait rêver, je veux dire. Mais, en bas, il y avait plus de place, il y avait du monde sur les galeries. Voyez. Et donc aujourd'hui, alors que nous sommes, je ne sais pas moi, 50-60 à vue de nez comme ça, je veux dire, on peut dire on est une petite église peut-être à la dérive, il y a des puissances qui sont autour de nous, il y a des questions qu'il faut résoudre, qui sont difficiles à résoudre, etc. Mais, comme une petite barque, il y a ce Christ qui est présent dans cette barque et qui est là pour nous donner un signe d'espérance. Nous sommes l'espérance dans le monde. Nous sommes un lieu... L'Église, on affirme la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, voyez, où on affirme l'espérance quand il n'y a plus d'espérance. Pour ça que nous sommes cette barque dans le monde, qui est un signe d'espérance. Quand je vous disais tout à l'heure qu'à travers toutes ces barques, il y a une présence de Dieu dans ces barques, qu'il y a une présence de Dieu qui est là. Et ce sont les hommes qui sont dans cette barque qui sont les porteurs d'espérance. Et c'est ça qui est une partie de la bonne nouvelle, parce que chacune et chacun d'entre nous ici présents, et les autres auxquels nous pensons, évidemment, sont des porteurs d'espérance. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Nous ne sommes pas des gens lambda ballottés comme cela, sans sens, perdus dans l'immensité, non. Nous sommes peut-être dans cette immensité, dans les difficultés, mais nous sommes porteurs d'espérance. Nous sommes dans cette barque. Véritablement. Et nous avons une mission les uns et les autres. C'est que dans la société dans laquelle nous sommes, notre mission, c'est d'être véritablement les porteurs de cette espérance. De dire non, le monde, même s'il nous semble très difficile à vivre, même s'il nous semble difficile à comprendre, il n'empêche que ce monde a un sens parce que Dieu est dans ce sens et que l'Église est le signe de ce sens, précisément, et que nous sommes dans cette Église. Et c'est ça qui fait que les êtres humains qui entendent le message de Dieu peuvent réaliser qu'ils ont de la dignité. Ils ont de la dignité auprès de Dieu, parce qu'ils sont prophètes de Dieu, parce qu'ils sont porteurs de cette parole. Tous les hommes peuvent l'être, évidemment. Ça va de soi. Le message est universel et l'amour de Dieu est universel. Comme je vous l'ai dit, l'amour a cette particularité qu'on peut découper à l'infini. La densité d'amour sera toujours la même. C'est ça qui est assez génial. Une mère aime tous ses enfants avec la même intensité. Que ce soit le premier ou le dernier, normalement. Il peut y avoir différentes manières d'aimer, évidemment. Il peut y avoir des nuances. Mais l'amour peut se découper à l'infini. C'est ça qui est génial. Mais c'est à ceux, dans cet infini, il y a ceux qui ont conscience de cela. Alors ceux-là sont vraiment les prophètes du Très-Haut. Oui, nous sommes dans cette barque, nous sommes l'Église, nous sommes la lumière du monde, et nous sommes la lumière du monde pour apporter un message d'espérance, mais aussi un message de liberté, aussi évidemment, parce que l'amour, l'espérance ne peuvent fonctionner que dans un espace de liberté, véritablement, et aussi de dignité. Oui, nous sommes un lieu où on parle de la dignité de l'être humain. Chaque être humain, quel qu'il soit, quelle que soit son origine ou son appartenance, a du prix aux yeux de Dieu. Il faut le dire. Il faut le dire haut pour que les hommes, nos frères et sœurs, puissent l'entendre, pour qu'ils puissent vivre dans une société qui sera toujours aussi complexe, toujours aussi difficile, mais dans laquelle les êtres humains puissent retrouver du sens et de l'espérance. Amen.